Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Au Vatican, tête à tête entre le pape et le métropolite Hilarion. À Moscou, le patriarche Kirill rencontre lui le cardinal Scola. Le rapprochement entre catholiques et orthodoxes russes se confirme. Nous en parlons dès le début de cette émission. De Jean XXIII à Benoît XVI, quels pas significatifs ont été accomplis ces 50 dernières années en matière de dialogue interreligieux? C'est la question que nous avons posée au cardinal Torrent à l'occasion de la publication d'un livre sur le sujet. Aux Philippines, des dizaines de milliers de morts à cause du typhon. Aux côtés de la communauté internationale, l'Église catholique se mobilise pour venir en aide aux victimes. Témoignage du père Daniel Godefroy à Manille dans un instant. Et puis enfin au Sri Lanka, les diocèses tamouls appellent au boycott du prochain sommet du Commonwealth à Colombo. Ils dénoncent des actes génocidaires contre les tamouls. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine en langue française de Radio Vatican. Je vous le disais il y a quelques instants, le rapprochement entre Rome et Moscou se confirme. Le pape François a reçu ce mardi le métropolite Hilarion, le président du département pour les relations extérieures au sein du patriarcat de Moscou. Le cadre fut intime, contrairement aux audiences en effet accordées aux chefs d'État et de gouvernement. Celle-ci ne s'est pas tenue dans la librairie des appartements apostoliques, appartements pontificaux, mais à la maison Sainte-Marthe où réside le pape. Et puis ce même jour, ce mardi, le cardinal Scola, l'archevêque de Milan, a rencontré à Moscou le patriarche Kirill dans le cadre des commémorations du 17e centenaire de l'édit de Milan de l'empereur Constantin. Retour sur ce rapprochement avec Bernard de Cotigny.
Après l'effondrement de l'Union soviétique, les rapports entre l'Église catholique romaine et l'orthodoxie russe étaient tendus. Le dialogue dans l'impasse. Mais un dégel s'est amorcé après l'élection de Benoît XVI. En 2007, Vladimir Poutine était reçu au Vatican. Il le sera d'ailleurs peut-être à nouveau fin novembre. Puis en 2009, lors de la venue du président Dmitri Medvedev, les deux États avaient décidé d'établir de pleines relations diplomatiques. Sur le plan œcuménique, les défis du monde contemporain ont fait tomber des barrières. Et dans un message envoyé au nouveau pape François, Kirill insistait sur les défis que les catholiques et les orthodoxes doivent relever ensemble, notamment face au libéralisme agressif. Les rapprochements se font aussi à l'échelon local. Ainsi, le 17 août 2012, le patriarche de Moscou et le président des évêques de Pologne ont signé une déclaration commune, une déclaration mettant en avant le dialogue et la réconciliation entre les deux nations. Deux jours plus tard, lors de l'Angélus, Benoît XVI évoquait publiquement un événement important qui suscite l'espoir pour l'avenir. Enfin, ces derniers mois, le sort des chrétiens d'Orient, dont beaucoup sont orthodoxes, et la guerre en Syrie ont rapproché encore un peu plus Moscou du Vatican. Ce mardi soir, un concert pour la paix était d'ailleurs donné à Rome à l'initiative d'une fondation réunissant des catholiques et des orthodoxes qui ont choisi d'œuvrer ensemble sur le terrain de la culture pour favoriser l'unité des chrétiens. Un concert sous le haut patronage du Saint-Siège, du patriarcat orthodoxe russe et de la présidence italienne.
Et dans ce contexte d'intense échange culturel entre catholiques et orthodoxes, le cardinal Poupart, président émérite du Conseil pontifical pour la culture, rappelle que ce rapprochement a été initié par le pape Jean XXIII avant de revenir sur ce qui rapproche les deux poumons, c'est son expression, du christianisme.
Jean XXIII. J'ai eu, j'allais dire, le génie grammatical pour me faire entendre de redonner la priorité au substantif sur l'adjectif. Nous étions tellement séparés que nous avions oublié que nous étions frères. Et nous nous redécouvrons frères, nous sommes encore séparés. Mais comme dans toutes les familles, il y a eu des brouilles, et bien les retrouvailles, il faut laisser le temps au temps, mais le temps est en marche. Voilà, si vous voulez.
Vous pensez que ce premier pas de la culture, de ce dialogue avant tout culturel, peut amener à justement après aborder le débat plus théologique?
Mais vous savez, je crois que tout se fait de façon contemporaine. Tout cela, j'allais dire, marche ensemble. Et l'important, si vous voulez, c'est que entre le patriarcat donc de Moscou, donc tous les fidèles orthodoxes, on pourrait dire plus largement, et les fidèles catholiques, nous n'avons pas de contentieux fondamental au plan théologique. Non, nous partageons la même foi qui s'enracine dans la même parole de Dieu, qui est donc irrigué par la Sainte Liturgie et qui s'exprime, et c'est là le point, je dirais, nous avons dans notre vie quotidienne, disons dans le gouvernement pour prendre ce terme, cheminé de façon différente, et maintenant nous voyons bien comment il y a, comme de part et d'autre, un rapprochement dans nos manières différentes de cheminer. Je prends du côté du monde orthodoxe, il y a maintenant, comme ils l'appellent toujours, la reconnaissance de l'évêque de Rome comme le primus inter pares, donc le premier en droit des légaux. Le fait que notre pape François se soit présenté au moment même de son élection, ce que certains avaient oublié, pas les cardinaux, heureusement, mais donc les cardinaux élisent l'évêque de Rome. Et l'évêque de Rome hérite du ministère de Pierre. Donc, le point sur lequel nous avons à nous rapprocher, c'est ce fait de la manière de vivre ce ministère. Et les églises, non seulement de Moscou, mais donc les églises orthodoxes, il y a la grande importance de la, ce que nous appelons, nous, la collégialité, le Saint-Synode. Et il est très significatif que notre pape François, dans sa manière donc, de gouverner, nous sommes tout au début de son pontificat, mais il a déjà posé des jalons très significatifs en ce sens, en instituant cette commission des cardinaux et puis toute dernière disposition sur la manière donc, de potentialiser, comme nous disons, le synode des évêques, qui avait été créé par le pape Paul VI, et Paul VI disait aux évêques, vous allez nous quitter. Hier, vous n'étiez pas là et nous n'en souffrions pas. Et maintenant, nous ressentons un grand vide. Et donc, nous ne pouvons pas avoir un concile permanent, instituant le synode des évêques, pour le réconfort de votre présence, l'apport de votre sagesse et le poids de votre autorité.
Interrogé par Xavier Sartre, le cardinal Paul Poupart participe ce mardi à la présentation d'un livre de l'intellectuel russe Sergueï Averintsev, l'auteur aujourd'hui décédé de « Verbe de Dieu et Parole de l'Homme » publié dans une édition bilingue italien-russe et préfacé par le métropolite Hilarion. Soulignons que le président émérite du Conseil pontifical pour la culture était lui-même il y a quelques jours à Moscou où il a rencontré également le patriarche Kirill. Le dialogue interreligieux dans l'enseignement officiel de l'Église catholique entre 1963 et 2013, c'est le titre d'un imposant ouvrage, plus de 2000 pages, présenté ce mardi en salle de presse du Saint-Siège, un volume qui regroupe 909 documents des papes de Jean XXIII à Benoît XVI, des documents sur le dialogue interreligieux depuis le Concile Vatican II. Lors de cette rencontre avec les journalistes, le cardinal Jean-Louis Torrent a notamment récusé l'idée très répandue selon laquelle Benoît XVI n'était pas très intéressé par le dialogue interreligieux. Le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a rappelé que durant son pontificat, on compte 188 interventions sur ce thème contre 591 durant les 26 années de pontificat de Jean-Paul II. Hélène Destombes a interrogé le cardinal Torrent. Il revient tout d'abord sur les pas significatifs accomplis ces 50 dernières années en matière de dialogue interreligieux.
D'abord, c'est la rencontre au niveau de la base, sur le terrain, parce que le dialogue interreligieux, ça ne se passe pas ici, ça se passe dans les églises locales. Et puis ces grands événements, la rencontre d'Assise, c'est très important aussi, mais ce contact que nous avons régulier avec différentes structures de dialogue en Libye, en Égypte, maintenant en Irak, j'espère bientôt. Donc tout ça, ça crée un climat neuf. Et je crois que nous avons tous les croyants ont à s'unir justement pour d'abord vivre leur foi et ensuite se respecter et comprendre que quelqu'un qui ne croit pas comme moi n'est pas nécessairement un ennemi, mais c'est un partenaire, un pèlerin comme moi vers la vérité.
Est-ce que certains papes, plus que d'autres, ont accordé une place privilégiée au dialogue interreligieux ?
Le pontificat de Benoît XVI est très intéressant à ce moment-là parce que ça va crescendo. Et là, le pape nous laisse un magistère extraordinaire. Je crois qu'il faut digérer, non seulement d'ailleurs dans le dialogue interreligieux, mais dans d'autres domaines aussi.
Et comment le pape François appréhende-t-il ce vaste et délicat dossier ?
Vous savez, le pape François, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a quelques années, il y a 3 ans, il était venu me voir, il m'avait demandé de lui indiquer où il pouvait envoyer un prêtre de Buenos Aires étudier l'arabe pour avoir quelqu'un dans son diocèse capable de dialoguer avec les musulmans en connaissance de cause. Je crois que ça indique tout à fait son intérêt. D'ailleurs, il en a, dès le premier jour de son pontificat, il a souligné cet aspect du dialogue interreligieux. Nous sommes condamnés au dialogue.
On parle beaucoup du dialogue de l'amitié.
Dialogue de la vie. Oui, ça commence toujours par là. Vous habitez dans un immeuble, vous avez des voisins musulmans. Vous allez les voir pour le Ramadan, ils viennent voir pour Noël, c'est ça, ça. Tout naît là.
Au regard du chemin parcouru ces 50 dernières années, certains observateurs évoquent un chemin à sens unique.
Effectivement, la plupart des initiatives de dialogue ont été prises par les chrétiens. Mais il y a cette Commonwealth, c'est la première fois qu'ils prenaient l'initiative. Ça, c'est, bon, il faut soutenir. Mais, vous savez, il y a une question de culture, c'est très compliqué quand même. Mais il faut se rencontrer, se regarder, voir finalement qu'il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent.
Pour l'instant, ça n'est qu'un dialogue entre élites.
Oui, je dirais oui, malheureusement. Mais il faut insister. L'école, l'éducation est très importante.
Vous attendez beaucoup du CAICID qui a été inauguré il y a un an ?
Moi, je suis un homme réaliste. Le bébé commence, il faut l'accompagner.
Rappelons-nous des Philippines, du Vietnam et de toute la région frappée par le typhon Haiyan. Soyez généreux dans la prière et l'aide concrète. Nouveau tweet du pape François ce mardi. François qui a chargé le conseil pontifical Coronum de faire parvenir une aide d'urgence de 150 000 $ pour les victimes du typhon. En Italie, en Suisse ou ailleurs, les évêques ont ainsi lancé des appels aux dons. Et outre cette mobilisation concrète lancée aussi aux Philippines, la conférence épiscopale du pays vient de lancer une neuvaine de prières à travers toutes les églises de l'archipel. Les prêtres doivent offrir pendant 9 jours les intentions de prière des messes pour les victimes du typhon et leurs familles. Je vous propose d'écouter le témoignage du père Daniel Godefroy qui vit dans un bidonville de Manille, la capitale du pays. Il revient sur la détresse des Philippins.
On comprend les angoisses des familles parce que les nouvelles sont tellement dramatiques qu'on ne sait pas qui est vivant et qui est mort. C'est vraiment la désolation. Hein. Après 4 jours, après avoir vécu des drames épouvantables, ceux qui sont survivants, enfin, ils sont complètement perdus, quoi. Et on s'aperçoit que les secours d'urgence ont du mal à arriver sur place parce que les infrastructures sont détruites, les routes sont complètement encombrées ou cassées. Les secours d'urgence qui devraient arriver par camion au niveau de la nourriture ont du mal à arriver jusque dans les endroits très reculés.
Quelles étaient ces personnes qui vivaient dans cette zone centrale de l'archipel ?
Ceux qui ont été touchés sont ceux qui sont dans les conditions les plus précaires et qui sont au bord de mer. Les maisons ont été complètement ravagées, quoi. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les images, c'est des gens qui essaient de courir partout où il y a des aides qui peuvent leur être apportées, des gens qui essaient de ramasser les morts qu'ils trouvent. C'est des centaines et peut-être des milliers dans les différents endroits. Alors la ville de Sacloban, la capitale régionale de Leyte, a été complètement ravagée. Elle était vraiment sur le chemin du cyclone.
Comment réagit la population qui n'a pas été touchée ?
C'est un peu la consternation et même le gouvernement est complètement dépassé, quoi, parce qu'ils n'ont pas les moyens prêts pour vraiment répondre immédiatement. Heureusement, on espère aussi qu'il va y avoir une aide internationale qui va être mise en place, mais ça prend du temps. Et en fait, on s'aperçoit que beaucoup de gens qui ont tout perdu, y compris leur maison, auront du mal à retrouver une vie normale. Il y a un traumatisme très fort, d'autant plus que actuellement, il y a un autre cyclone qui se prépare et qui risque d'avoir à peu près la même trajectoire, même si ce n'est pas aussi violent que le précédent. Donc les gens sont très angoissés. On voyait des images tout à l'heure à la télévision de gens qui voulaient monter dans les avions pour partir. Mais en fait, c'est une réaction qui peut se comprendre, mais qui est irrationnelle et qui est difficile à accepter, quoi.
Et selon vous, est-ce que les gens vont se mobiliser ?
Oui, parce que en fait, les Philippins, ils ont une résilience impressionnante. Parce qu'ils sont habitués à des catastrophes. Il y a beaucoup de sortes de catastrophes. Il faut savoir qu'il y a 3 semaines, c'est presque la même région où il y a eu le tremblement de terre qui a détruit aussi beaucoup de bâtiments. Et les gens surmontent ces épreuves d'une manière assez impressionnante. Il y a aussi beaucoup de gens qui se portent volontaires. Mais il n'y a pas de savoir-faire organisationnel. Quand je pense à des catastrophes comme ça, je me dis, mais il faudrait qu'au niveau de l'ONU, il y ait des équipes qui soient immédiatement prêtes, des gens très compétents qui peuvent aller sur place organiser de manière rationnelle des aides. Parce que c'est très difficile d'apporter des aides immédiates à des gens qui sont très éparpillés, très désorganisés. Alors l'Église, parfois, a des moyens d'aider. Un des programmes de l'Église, c'est les communautés de base. Je ne sais pas si elles existent très fortes dans cette région, mais quand elles existent, c'est des petites cellules de gens de voisinage qui se connaissent, donc qui facilitent énormément l'entraide entre les gens. Mais on est vraiment très démunis et aussi découragés devant cette situation. Parce qu'on sait que même s'il y a des bonnes volontés, même s'il y a des aides qui sont apportées, ce sera vraiment une goutte d'eau dans une immensité de souffrance et de misère. Parce que vous savez, les gens qui ont vécu ce traumatisme, ils vont porter ça toute leur vie. Après les catastrophes, très souvent, il y a des groupes de paroles qui se créent parce que c'est un besoin. Souvent, ils ne veulent pas parler, mais c'est un besoin qu'ils arrivent à exprimer des souffrances qui restent trop enfermées en eux, va avoir des conséquences dramatiques pour leur avenir.
Donc ensuite, il faudra veiller à ne pas oublier ces populations.
Il ne faut pas en rester là, je crois. Par exemple, des missions médicales dans des régions qui ont été très éprouvées comme ça insistent sur le fait qu'en même temps que l'aide médicale qui est apportée, il y ait aussi une aide à la parole, une aide à la fraternité, pour que des gens puissent arriver à surmonter l'épreuve psychologique que ça représente. Quand on voit la destruction terrible, on se dit, mais comment des gens qui sont dans la pauvreté vont pouvoir même reconstruire leur maison? Ils ont tout perdu, tout. C'est impressionnant, quoi. Donc en fait, s'il n'y a pas des programmes spéciaux qui sont mis en place par l'État, contrôlés, qui soient vraiment au plus proche de la vie des gens qui sont dans cette situation, on comprend très bien que le désir immédiat des familles est de fuir. Dans mon quartier, j'ai des exemples de gens que je connais très bien qui sont venus sur Manille après avoir vécu un ou deux typhons dans leur région qui avaient tout détruit. Donc en fait, ils disaient la seule solution, c'est de partir. C'est une solution de désespoir. En même temps, ça montre aussi que devant les difficultés, devant la pauvreté et puis des épreuves comme les cataclysmes, la réaction naturelle, c'est de dire il faut que je quitte pour aller chercher une vie meilleure ailleurs.
Le père Daniel Godefroy, un témoignage recueilli par Audrey Radondi. Le Sri Lanka s'apprête à accueillir entre le 15 et le 17 novembre prochain le sommet du Commonwealth, qui rassemble 53 membres pour l'essentiel d'anciennes colonies britanniques. Le président du Sri Lanka s'est dit impatient de montrer la transformation du pays après, dit-il, des dizaines d'années de guerre brutale contre le terrorisme. Mahinda Rajapakse se félicite et pourtant, de nombreuses voix s'élèvent pour protester contre le refus de Colombo d'ouvrir une enquête internationale sur les derniers mois de conflit entre l'armée et les rebelles tamouls, mais aussi contre les mauvais traitements réservés encore aujourd'hui contre la communauté tamoule. Vendredi dernier, l'évêque du diocèse catholique de Manar dans le Nord appelait à boycotter le sommet du Commonwealth. Ce compromis de faire depuis les premiers ministres du Canada, d'Inde et de l'île Maurice, Manuela Fidji.
Colombo ne peut être un lieu approprié pour accueillir le sommet. Sa tenue contrevient aux valeurs inscrites dans la charte du Commonwealth. Le diocèse de Mgr Ayapu Joseph se trouve dans la région nord du pays, une zone majoritairement peuplée par des Tamouls, et c'est donc preuve à l'appui qu'il dénonce la poursuite des actes génocidaires perpétrés contre le peuple tamoul. Des accusations faites également le 18 octobre dernier par la commission justice et paix du diocèse de Jaffna, également située en région tamoul. Après 30 ans de guerre et 40 000 morts lors des derniers mois du conflit, les Tamouls espéraient d'abord une enquête indépendante et crédible sur les crimes commis lors du conflit. Le refus du président, un Singhalais, a exacerbé leur ressentiment. Au nord, 4 ans après la guerre, les Tamouls, soupçonnés d'être d'anciens tigres, sont surveillés. Des cas de disparition ont été documentés. Les réunions à plus de 5 sont interdites. Les sorties scolaires doivent être annoncées à la police. Des femmes se font violer lors de contrôles de police. L'armée reste omniprésente, contrôlant le développement économique. Dans la région de Vani, on voit des banques s'ouvrir, des commerces et des panneaux publicitaires pour des portables apparaître. Mais le développement profite essentiellement aux Singhalais venus du sud. Église d'Asie rapporte que sous les pression de la communauté internationale, Colombo a autorisé la tenue d'élections locales le 21 septembre dernier. Malgré les intimidations du pouvoir central, le parti tamoul a raflé 30 des 38 sièges en jeu. Problème, le gouvernement central empêche le Conseil du Nord de voter les lois sans la validation du gouverneur. Or, pour beaucoup, sans décentralisation et sans une solution politique, il n'y aura pas d'avenir pour les Tamouls.
Aux États-Unis, la conférence épiscopale a un nouveau président, comme le veut la tradition, ou presque, Mgr Joseph E. Kurtz, le vice-président de la conférence USCCB, succède au cardinal Timothy Dolan, l'archevêque de New York. Mgr Kurtz est l'archevêque de Louisville, dans le Kentucky. Il a participé aux travaux du synode sur la nouvelle évangélisation à l'automne dernier, proposant d'étendre à cette occasion, étendre à toutes les paroisses catholiques, le rite de bénédiction de l'enfant à naître, puisque, outre le fait que cette bénédiction souligne la dignité de la vie humaine, elle offre l'occasion de manifester l'humanité de l'Église, un puissant outil dans la nouvelle évangélisation. Cette bénédiction fut officiellement approuvée en mars 2012. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Prochain rendez-vous demain, même lieu, même heure. N'hésitez pas d'ici là à vous rendre sur notre site internet www.radiovaticana.va.